Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Première de deux émissions aujourd'hui sous le titre général « Grigol Peradze, savant et saint ». Nous parlerons en effet d'un personnage hors du commun, un érudit géorgien né en 1899, devenu prêtre orthodoxe, qui, après une carrière scientifique particulièrement riche, a trouvé la mort dans le camp de concentration nazi d'Auschwitz en 1942. La sainteté de Grégoire Peradze a été reconnue et proclamée en 1995 par l'Église de Géorgie. Pour parler de Grigol Peradze, dont le cheminement est intimement lié à Paris, nous recevons Bernard Outhier, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste des langues et littératures du Proche-Orient et du Caucase. Bernard Outhier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez récemment participé à un colloque qui a eu lieu à Paris en l'honneur de Saint-Grégoire Peradze, et vous connaissez certainement l'histoire et la qualité des travaux scientifiques de ce savant par vos propres recherches. Alors pour commencer, comment pourrait-on résumer la vie et l'œuvre de ce grand érudit qui est en même temps un vrai témoin de la foi chrétienne au XXe siècle?
C'est d'abord un homme d'une qualité exceptionnelle, qualité humaine, d'énergie, de générosité, d'ouverture à autrui, qui va devenir un érudit absolument exceptionnel. Il a été envoyé en Europe pour parfaire ses études de théologie par le patriarche de Géorgie en 1921. Il ne pourra jamais retourner dans son pays, la Géorgie, surtout après qu'il soit devenu prêtre, archimandrite mitré. Mais il va poursuivre sa carrière scientifique tout en ayant vraiment au fond de son cœur ce souci pastoral. Il va participer à la fondation, mais surtout être le premier prêtre de la seule paroisse géorgienne hors de Géorgie à l'époque, à Paris, à partir de 1931. Et il aura toujours souci, même quand ensuite il va enseigner la théologie orthodoxe à Varsovie, à l'université de Varsovie. Il aura, dès qu'il y a un jour de vacances, il revient à Paris pour s'occuper de ses paroissiens. Donc un souci pastoral extrêmement fort. Et il ira jusqu'au bout de sa foi chrétienne. C'est assez remarquable d'avoir un savant qui est en même temps un saint et un martyr. Un bel exemple.
Voilà donc un résumé de cette vie si riche. On va maintenant la voir en détail, si vous voulez, parce que cela vaut la peine et parce qu'on découvre beaucoup de choses. D'où vient-il? Bon, il est géorgien, mais d'où vient-il? Ses liens avec le monde orthodoxe, bon, Géorgie, ça n'est pas exceptionnel.
C'est une famille qui est originaire de Géorgie de l'Ouest, ce qu'on appelle en géorgien Imereti, la région de Koutaïssi, la deuxième capitale, deuxième grande ville de Géorgie, avec ce merveilleux monastère de Gelati à quelques kilomètres. Mais son père était curé dans une province qui est la Bourgogne géorgienne, Kareti, tout à fait à l'est de la Géorgie. Et malheureusement, il va perdre son père très tôt. Sa mère va s'occuper très bien des enfants. Il avait 6 ans quand son père est décédé. Et il va faire des études au petit séminaire, puis au grand séminaire de Tiflis, d'où il sortira premier. Et il aurait pu prétendre, évidemment, dans l'Empire russe, puisque en 1918, quand il sort, c'est juste la fin de l'Empire russe, à un poste brillant. Mais la destinée historique, la Géorgie reprend son indépendance. Pendant 3 ans, elle va être indépendante, jusqu'en 1921. Et il va faire donc des études, il va enseigner comme professeur d'école. Mais en même temps, il va suivre des cours à l'université. Et là, l'université est refondée, si l'on peut dire, à Tiflis en 1918. Elle va exister, elle va survivre pendant l'époque soviétique, être là le grand centre universitaire du Caucase, pas seulement de Géorgie. Et il va avoir comme professeur pour la littérature géorgienne ancienne un archiprêtre, qui avait fait ses études, lui, à Kiev, et qui est devenu l'auteur du manuel qui sert encore aujourd'hui pour les études de géorgiens anciens, de littérature géorgienne ancienne, Kornelik Kelidze. Et cet homme était passionné, comme évidemment comme prêtre, par la liturgie et par la géographie. La patristique géorgienne, bien sûr, et aussi non géorgienne de traduction. Il a fait un grand répertoire que Perladze va faire connaître plus tard en Allemagne, quand il fera ses études. En 1921, il est envoyé par le patriarche pour poursuivre sa formation théologique à Berlin.
Pourquoi là, en Allemagne ?
Il y avait deux pays, enfin trois, à vrai dire, comme dans le livre des Proverbes, il y avait deux, mais non, trois, deux pays qui étaient très liés à la Géorgie, c'est la France, qui était vraiment le pays de la culture et des arts. L'Allemagne était un pays pour l'industrie, très lié à la Géorgie. Et le troisième pays, ça va être la Pologne, qui va jouer aussi un très grand rôle dans la vie de Grigol Perladze, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, comme les Russes sont évidemment pas très bienveillants envers les Polonais, ni envers les Caucasiens, du coup ça va lier... Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu en France ? Il aurait pu venir en France, je pense, mais bon, il y avait de très très bons professeurs en Allemagne à l'époque, c'était pour la théologie. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y a... ça a été le conseil du patriarche, il y a eu un conseil avec le patriarche à sa tête qui a décidé l'envoi de Grigol Perladze en Allemagne.
Merci, et je pense que donc ces études en Allemagne vont l'introduire dans l'érudition qu'il ne connaît peut-être pas encore. Enfin, il a déjà étudié, il a peut-être le talent pour ça, mais on peut pas le qualifier d'érudit quand il quitte la Géorgie pour aller...
Tout à fait. Et là, il va faire des études d'orientalisme très vite. Il va apprendre l'hébreu, l'arabe, le copte, l'arménien, le grec, bien sûr, auxquelles s'ajoutent des langues qu'il avait déjà apprises, le latin, l'anglais et le français. Bien sûr, il savait le russe, le géorgien, et il apprendra en 1933, quand il va être invité à donner des cours en Pologne, il va en quelques mois apprendre le polonais très facilement. Donc c'était un homme très très doué pour les langues.
Oui, ce qui va servir beaucoup, et ce qui va certainement lui donner l'ouverture, qu'on verra plus tard, si vous voulez, vers toutes ces civilisations qui sont un peu marginales peut-être dans l'histoire du christianisme et des études byzantines aussi, mais qui sont fondamentales pour l'étude justement de ces sujets.
Alors c'est une époque où à la fois en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne, on redécouvre les chrétientés orientales, c'est-à-dire au-delà du grec, donc le monde arménien, géorgien, copte, syriaque, arabe, chrétien, pas très très connu, éthiopien, il n'apprendra pas l'éthiopien, mais presque toutes les autres langues. Et ça ouvre évidemment beaucoup aussi au point de vue théologique.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait en Allemagne ? Combien de temps durent ses études ? Est-ce qu'il se spécialise dans quelque chose de particulier ? Qu'est-ce qui va déclencher cet amour après pour le travail des manuscrits, en fait ?
Alors, à Berlin, il décroche très facilement son diplôme de candidat en théologie. Et à ce moment-là, on le dirige. Il a envie de faire un doctorat, mais sur des sujets géorgiens. Et il va être envoyé à Bonn, où il y a un très grand spécialiste de géorgien à l'époque, et il va faire sa thèse sur le monachisme géorgien. Et il va être nommé docteur en décembre 1927 avec mention « très bien ». Et tout de suite, on va lui offrir de faire des cours d'arménien et de géorgien à l'université de Bonn, ce qu'il va faire pendant 3 ans.
Et c'est comme ça que commence sa carrière universitaire.
Donc absolument. Et c'est là, donc il est docteur en 1927, nommé docteur officiellement, mais dès 1926, il commence ses publications scientifiques. Donc très tôt, il avait 27 ans, à peine.
Alors, il commence ses publications scientifiques. Par quoi commence-t-il ?
Alors, il commence par deux choses importante pour lui, le monachisme géorgien. Ça, c'était le sujet de sa thèse. Et il fait partie très tôt de la commission Foi et Constitution. Il est donc engagé dans ce travail pour des théologiens pour l'unité de l'Église. Donc vraiment, on retrouve chez lui ce travail du savant, vraiment scientifique, et ce travail du théologien, toujours.
Alors, on va en reparler tout à l'heure après la musique, parce que, évidemment, pendant un moment, il combine, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, les fonctions de prêtre à Paris et de chercheur en Allemagne. Mais on voit bien aussi qu'il est très vite porté vers les manuscrits, la recherche, si vous voulez, c'est la vraie recherche là, des sources. Et en fait, on lui doit, in fine, énormément de découvertes ou de textes géorgiens anciens.
Tout à fait. Alors, il va étudier les manuscrits géorgiens qui sont accessibles en Angleterre et en Autriche. Et en Autriche, il découvre la version géorgienne de la lettre du pseudo-Denis sur la mort de Saint-Pierre et Saint-Paul, et qui n'était pas connue à l'époque. Maintenant, il y a un travail d'ensemble qui se prépare sur ce travail. Plus tard, là, ce sera dans les années où il enseigne déjà en Pologne, mais où l'été, il peut aller faire des expéditions scientifiques. Il va aller au Proche-Orient. Il va aller en particulier en Bulgarie et à Sofia découvrir la version géorgienne du Typikon du monastère qui avait été fondé au XIe siècle à Batchkovo, le monastère de Petritsoni, par Ioanne Petritsi, un néo-platonicien, disciple de Jean Italos, la situation à Byzance était un peu difficile pour les néo-platoniciens, et donc il s'est réfugié en Bulgarie, mais qui était l'Empire à l'époque.
Jean Italos, ça remonte très haut, hein, ça, oui. C'est le 11e siècle, on est chez les Comnènes, oui, c'est
fait.
Ça.
Tout à fait.
À Byzance, et donc on voit bien aussi le rapport de la Géorgie et de Byzance avec ça. Et on n'aura peut-être jamais assez souligné l'importance de l'étude des documents géorgiens pour la compréhension de beaucoup de choses qui concernent l'histoire du christianisme ancien et de Byzance aussi. Hein.
Tout à fait. On a beaucoup de textes, des lettres de Nicolas Tétatos, par exemple, qui n'existent plus qu'en géorgien. Beaucoup de textes patristiques
et traductions qui ont survécu, tandis que l'original grec est perdu.
Quand les choses s'échouent sur une rive très lointaine, au centre, ça continue d'évoluer, mais sur les rives lointaines, ça reste. C'est conservé.
Alors écoutez, je propose que l'on fasse maintenant notre pause musicale, et elle ne peut être que géorgienne. Et donc c'est le chœur géorgien Harmonie que dirige Nana Peradze, et c'est un extrait de la procession pascale de ce discours. Procession pascale par l'ensemble Harmonie, un ensemble géorgien que dirige Nana Peradze. Voilà une géorgienne qui est active à Paris pour sa musique. Voilà, nous sommes donc à Paris et on va faire le lien avec la vie de Grigol Peradze qui lui aussi va venir à Paris. Pourquoi, quand et que fait-il à Paris?
Alors Grigol Peradze vient à Paris, pourquoi? Parce que en 1921, le gouvernement géorgien, chassé par les bolcheviks russe se réfugie en France. Donc nous accueillons à Paris et dans la banlieue de Paris le président de la République, la plupart des ministres, le général Kvinitadze qui avait défendu Tbilissi jusqu'au dernier moment. Et donc il y a c'est la présence la plus importante en Europe avec une concurrence encore une fois, en Pologne. En Pologne, c'est surtout les militaires qui vont se réfugier en Pologne plutôt qu'à Paris. À l'époque, il n'y a aucune paroisse géorgienne, bien sûr, à Paris. Et le père Peladze, qui n'est pas encore religieux, qui va devenir prêtre en 1931, se soucie de cela et dès 1929, il vient à Paris et il participe au projet de fondation, de constitution d'une paroisse géorgienne. Et il va donc être le premier prêtre de cette nouvelle paroisse.
Et il s'en soucie avant même qu'il ne devienne prêtre, c'est ça?
Il s'en soucie avant, ça c'est, ouais, ouais. C'est tout à fait ouais. Caractéristique de ce désir vraiment pastoral, très très fort, ne jamais abandonner les siens et les consoler dans ce moment très difficile.
Alors cette paroisse dépend du patriarcat œcuménique au plan de la juridiction.
Oui, elle se rattache directement pour voilà. Ne pas être risquée de tomber sous le joug soviétique et les manipulations de l'Église par le pouvoir soviétique. Il se rattache directement au patriarcat œcuménique.
Et pour nos auditeurs, je dis bien que cette paroisse est toujours là, est toujours vivante, hein, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est très belle d'ailleurs, c'est une petite église, il faut descendre pour y aller, mais avec beaucoup d'atmosphère et toujours active, parce qu'elle a eu à sa tête aussi des personnalités, hein, bon, et le père Rigol d'abord. Et évidemment, un mot sur son ordination, parce que nous avons une photo aussi de ça, et ça c'est merveilleux, qui a lieu en mai, je crois, 1931, c'est ça?
Tout à fait, le 25 mai 1931, à la cathédrale grecque Saint-Étienne.
De la rue Georges Bizet. Alors, il y a une photo de ça que j'ai devant moi et qui sera sur le site de l'émission parce que on voit bien le père qui est au milieu et puis il y a l'archevêque qui est venu de Londres, hein, pour faire l'ordination et puis plein de gens autour qui doivent être des membres de cette communauté géorgienne.
Tout à fait.
Tout à fait.
Alors, les fondateurs en particulier de la paroisse, le prince.
C'est très vivant parce que on est dans l'histoire là et on voit bien, d'ailleurs, quand on voit son visage, on voit qu'il est extrêmement joyeux, hein, c'est pas un
oui. Et donc il est ordonné le 25 mai. Le 31 mai, il célèbre sa première liturgie à Sainte-Nino et il prononce une longue homélie. C'est vraiment un programme dans une langue poétique et rythmée. Et c'est une exhortation à ses compatriotes à bâtir un lieu de prière et d'entraide pour les Géorgiens chassés vers les rives de Babylone, réminiscence biblique, et surtout une incitation vibrante à vivre l'exil en lui donnant un sens spirituel et patriotique, toujours. Garder intact, dit-il, le trésor de l'âme géorgienne pour échapper au pire qui serait d'être exclu de son humanité et du sens de l'honneur.
Voilà, c'est un programme, comme vous dites.
Un programme très fort, qui est imprimé. Il va, les quatre premières années, il va imprimer un petit bulletin en géorgien. C'est tout à fait lui. Il y a que lui qui peut faire ça. C'est à la fois un bulletin pastoral et scientifique. Il va publier des textes scientifiques dans ce bulletin aussi.
Écoutez, c'est merveilleux. Et puis, je voulais quelques mots aussi sur son engagement éventuellement pastoral, parce que après, quand on étudie sa vie, on voit bien que la même époque, je dirais, on le voit pasteur à Paris et on le voit également chercheur en Allemagne ou ailleurs. Alors, comment peut-on faire les deux?
Alors, il est donc nommé Privatdozent, c'est-à-dire chargé de cours, on vous dirait peut-être maintenant, aujourd'hui, à Bonn, où il enseigne l'arménien et le géorgien, les littératures arméniennes et géorgiennes anciennes. Il se concentre évidemment sur la patristique, mais dès 1931, il a cette paroisse et il rend. Il dit que j'arrête mes cours parce que je veux m'occuper de ma paroisse. Et pendant 2 ans, il va être à Paris. Et puis, en 1933, il va être appelé à Varsovie comme professeur suppléant de l'Université de Varsovie pour enseigner la patrologie dans le séminaire de théologie orthodoxe. Donc là, il va se mettre très vite en quelques mois au polonais et il va continuer son travail d'enseignant, de recherche. Mais dès qu'il y a un jour de vacances, il revient à Paris. Parce qu'il considérait qu'au fond, c'était sa mission la plus essentielle, cette mission pastorale. Il conjoint les deux, mais il les ordonne aussi.
Et là, peut-être on voit déjà ce qui va finir évidemment par la reconnaissance de sa sainteté, si vous voulez, cette espèce de mariage qu'il y a entre l'érudition, le travail sur les textes du christianisme ancien, etc., et d'autre part, le travail pastoral, le travail chrétien dans le monde d'aujourd'hui, qui fait que, en fait, il combine les deux activités et, comme vous dites, il voyage beaucoup. Ce qui
et pour lui, c'est très harmonieux. Et en 1935, par exemple, il va visiter le célèbre monastère de Latos Iviron, c'est-à-dire Ton Iviron des Ibères, comme les Géorgiens sont appelés par leurs voisins.
Monastère et qui est toujours là.
Hein. Le monastère est toujours là. Il y a encore une collection de manuscrits géorgiens magnifiques dont nous avons fait le catalogue
tout récemment,
qui est paru l'an dernier. Il en rapporte 13 manuscrits et 50 imprimés.
Ah oui.
Pour son travail personnel, dont justement les œuvres du pseudo Denis qu'il voulait éditer. Il est allé donc en Angleterre, comme je l'ai dit. Il a copié un évangile apocryphe dont c'est le seul témoin conservé en géorgien et qui n'existe dans aucune autre langue. Et il fait l'hypothèse que ce texte a été traduit de l'arménien. C'est un texte des Arméniens de Jérusalem, monophysite, entre guillemets. On dirait miaphysite aujourd'hui. Et il édite pas le texte, mais si j'ai bonne mémoire, en tout cas, il publie une traduction polonaise pour le faire connaître.
On le voit à l'œuvre, donc on voit là le vrai érudit, le vrai chercheur. Hein,
le vrai chercheur, et en même temps ouvert à d'autres formes de christianisme.
Alors, qu'est-ce qui reste, puisqu'on est encore à Paris, si je puis dire, et puis pour l'émission qui va suivre, on va évidemment revenir à cette période polonaise tellement riche au plan scientifique. Qu'est-ce qui reste, je dirais, aujourd'hui, de son passage à Paris, de son enseignement, de la direction de sa paroisse? Est-ce qu'il a préparé sa succession?
Bon, on verra dans la prochaine émission comment son sort s'est joué à Varsovie en 1939. Et ça, je ne pense pas qu'il l'eût prévu. Mais ce qui s'est passé, c'est que son successeur, le père Elie Melia, a eu toujours le souci de retrouver les traces des derniers moments du père Grigol Perazzi. Il y a eu ce lien extrêmement fort et étroit. Nous verrons que le père Perazzi était injuste, c'est-à-dire qu'il s'est occupé de sauvegarder autant qu'il fut possible les Juifs. Le père Melia a fait la même chose en France pendant l'occupation allemande. Et maintenant, c'est le troisième successeur, qui est le père Archil d'Avrichashvili, qui est aussi évidemment très très reconnaissant à tout le travail qui a été fait, semé, fondé par le père Grigol Perazzi. Et il y a encore quelques anciens qui ont été baptisés par le père Perazzi, qui l'ont connu. Malheureusement, ils deviennent de moins en moins nombreux avec le temps et qui gardent un souvenir absolument émerveillé de ce prêtre enthousiaste, généreux, toujours allant de l'avant.
Et ils en sont très fiers, là. Je peux en témoigner parce que j'ai assisté récemment à une conférence sur lui qui a été faite par le père Henryk Paprocki en la cathédrale Saint-Stéphane, dans la salle de l'église, dans la série de conférences qui sont organisées là-bas, et il y avait, c'est-à-dire à l'endroit où il a été ordonné prêtre. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une grande partie de la communauté géorgienne qui était venue assister à la conférence, et j'ai vu avec quelle émotion il suivait tout le... le cheminement de ce père spirituel, même s'il est lointain, et comme vous dites, il y a maintenant très peu de gens qui l'ont connu directement. Alors, il faut dire aussi que dans les années 30, je ne sais plus encore quelle date, il a été élevé au rang d'archimandrite, c'est ça, oui.
Bon. Oui, alors ça c'était en 1934, c'était en Pologne, déjà. Oui.
Il était en Pologne, mais oui, il est allé, je crois, à Londres pour ce, pour.
Non, alors à Londres, il a reçu la tonsure monastique à Londres.
Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il faut un évêque et donc il fallait aller là-bas. Et peut-être pour les quelques minutes qui nous restent pour cette émission, comment a-t-il quitté Paris? Comment et pourquoi?
Ben, en fait, il a été à Paris jusqu'en 1939. En 1939, il est allé pour faire ses cours en septembre à l'université et de Varsovie. Et là, les Allemands sont arrivés avec la brutalité que vous savez en Pologne. Et son destin s'est lié là. Mais il n'avait pas du tout l'intention d'abandonner Paris.
D'accord.
En quoi que ce soit.
C'est quelqu'un donc dont la présence est toujours... Je veux dire, à Paris aussi, et ça, c'est formidable. Alors, nous avons 2 minutes encore. On va parler de la biographie et des documents qu'il y a à lire dans la prochaine émission. Mais je voulais déjà un mot. Si on veut déjà avoir, en français, un petit aperçu, si vous voulez, de sa vie, etc. Par quoi faut-il commencer? Que faut-il lire?
Alors, pour lire, je pense qu'il y a l'aperçu le plus complet, c'est celui qui a été fait par le père Henryk Paprotsky dans la revue des études géorgiennes et caucasiennes, une revue qui a été publiée à Paris, et ça c'est le tome 4 de 1988. J'espère qu'elle est toujours accessible, en tout cas dans certaines bibliothèques bien sûr, mais on peut aussi se la procurer chez Peters. Donc il y a un bureau de Peters au 52 rue Boulevard Saint-Michel, et sinon bon, les éditions Peters, on trouve sur internet facilement. Malheureusement, c'est une revue qui n'a pas survécu à la mort de son directeur Georgi Shorashidze et qui ne paraît plus maintenant.
Écoutez, c'est donc une première approche comme ça, lecture, et puis c'était la première émission. Nous allons revenir sur la vie et la fin tragique de cette vie, évidemment, de Grigol Peradze, un personnage très important. C'était donc la première partie de ces 2 émissions qui lui sont consacrées sous le titre général Grigol Peradze. Première partie aujourd'hui, étudiant en Allemagne, prêtre à Paris, avec Bernard Routier, que je remercie beaucoup. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Colac. Prise de son Delphine Baudet. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant par Jean-Luc Gadreau.
Not your natural.